Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
On démarre par un jeu pour savoir qui lance l'émission.
Ouais.
Entre Juliette, François et Ramzy. On fait quoi, François?
On avait fait quoi l'autre fois? On avait fait
un mot
et on trouvait un film.
Ouais.
C'était pas mal, moi j'aimais bien. J'étais nul, hein, mais.
Ou alors j'ai un jeu aussi.
Ah ouais, alors vas-y Christine.
Alors, vous m'écoutez bien, la règle est très simple.
Ouais.
Le dernier qui dit je t'aime Christine a perdu.
Je t'aime Christine. C'est François Gabin.
François Gabin.
Non,
c'est clairement
François Gabin. Putain, mais c'est insupportable.
Si Christine dit, c'est que c'est vrai.
Et c'est parti.
Bienvenue dans La Fabrique, le podcast dédié à la création.
Saison 2.
Avec Juliette Arnaud, Ramzy Assadi, François Audouin, épisode
10.
Avec Christine Gonzalez. Bonjour Christine.
Bonjour. Salut.
J'ai fait ma voix sur la
très, très méga sexy et un peu gênant. Arrêter ça vite. Ouais. Bonjour Ramzy. Bonjour Christine.
Bonjour
François.
Salut. Et alors,
c'est qui? Mais c'est toi normalement.
Et oui, qui bah, comme, aussi. Comme vous me reprochez de refaire à chaque fois le sommaire de début ouais. Et de lancer l'émission.
Non mais tu peux faire la première question.
Du coup, cette fois je le fais pas.
Bah tu peux faire la première question.
La première
tu peux
question.
Faire la transition.
C'est à toi de lancer la première question.
Alors Juliette, comme d'habitude, tu peux enlever le générique si tu veux.
Je sais pas faire.
Ok. Ok.
Allez, la première question
rituelle par Juliette.
Christine,
Juliette,
je crois savoir que tu ne viens pas d'un milieu précisément artistique.
Non.
Non, mais enfin, ça n'est pas un jugement esthétique. C'est tes parents, ni l'un ni l'autre, n'évoluaient pas, ne gagnaient pas leur vie grâce à un métier donc dit artistique. Comment est-ce que toi, tu t'es donné l'autorisation d'embrasser cette voie?
Bah, artistique, déjà, là, y a déjà un problème pour moi parce que je me sens pas du tout artiste. Donc, voilà.
Nous, par contre, oui.
Merci Ramzy, merci Christine.
Non, mais t'as un métier. Alors, si artistique, ça veut pas, parce que je comprends très très bien. Hein. Moi, je pense que le mot artistique, il faut
création,
le laisser en gros.
De création, tu fabriques quelque chose.
Oui. Voilà.
Oui.
Ouais, c'est vrai.
Alors, comment tu t'es donné l'autorisation de ça?
Alors, c'est d'autres qui m'ont donné l'autorisation. Moi, j'ai effectivement. Mes parents étaient profs, les deux. Je suis une petite fille de libraire. J'ai grandi dans les livres, dans la librairie de mon grand-père à Fribourg, petite ville de Suisse romande. Et. Les médias, ça existait pas trop. Ouais, ma mère écoutait un peu de radio et tout, mais moi j'étais pas spécialement fan. Je lisais le journal de la région, La Liberté, mais ouais, il y avait pas de passion, il y avait pas d'envie, il y avait pas d'élan quoi vers ces métiers-là du tout. Par contre, ce que j'ai fait, c'est faire ce qu'ont fait mes parents, la littérature. Donc je me disais, oh, je vais faire la littérature, donc j'ai étudié les lettres à l'université, enfin et linguistique et sciences des religions. Et je ne savais pas du tout où j'allais. C'était un petit problème aussi dans ma vie de, à ce moment-là. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ?
Sauf que tu avais quel âge ?
Bah, 20 ans.
Mais est-ce que c'est pas le tarif ?
Ouais.
Est-ce que les gens normaux à 20 ans ?
Ouais, moi j'étais entourée de gens qui savaient.
Mais parce que ça,
peut-être qu'ils faisaient semblant de savoir. Hein.
Peut-être qu'ils faisaient... Alors déjà, il y a tous ceux qui font semblant
alors,
de savoir.
Astronaute ou, ou pilote de chasse, moi aussi,
petit,
mais.
Ça, c'est plus petit.
Mais ouais. Ça, c'est plus petit, ah François. Bon oui, normalement à 20 ans, t'as arrêté.
Ouais.
Ah bon ? Ok. Bon.
Tout le monde ne fait pas du skate quand
tu. Non, mais c'est vrai que quand t'as 20 ans et que tu sais pas vraiment ce que tu veux faire. Tu remarques davantage ceux qui savent exactement ce qu'ils veulent
faire. Oui, mais elle a raison de préciser, je crois, Christine, ceux qui font semblant de...
Peut-être semblant, mais en tout cas...
Ou qui ont une certitude à un moment donné qui va se modifier.
Certains ont une certitude, ouais, ils s'engagent, je ne sais pas, en médecine ou ailleurs, pour faire un métier précis. Et parfois, quand tu t'engages à la fac, je sais bien parce que j'ai fait 4 premières années de fac.
T'as fait quoi comme
étude ? J'ai fait beaucoup de maths et maths éco, tout ça, les choses comme ça. Et je me suis rendu compte que, voilà, je savais... Ceux qui s'inscrivaient, notamment en fac de maths, voulaient absolument devenir prof de maths. Mais sauf que moi, je ne voulais pas devenir prof de maths. Je ne savais pas pourquoi j'étais en maths. Et donc, en fait, oui. Parfois, en fait, tu te perds un peu. Enfin, tu es un peu perdu. Mais tu vois des gens qui ont un objectif précis.
Mm-hmm. Enfin, moi, j'ai l'impression que ce qui me paraît normal, maintenant que je suis une plus vieille dame, c'est que ça me semble être la moindre
choses, ne pas savoir qui tu es
et ce que tu veux faire à 20 ans. Donc
ça peut être hyper angoissant. Enfin, moi, c'était hyper angoissant.
Mais c'est hyper angoissant parce que la société est fabriquée de telle sorte qu'on te renvoie l'idée qu'à 20 ans, tu es censé savoir.
Ouais, tu es censé prendre une voie. Et surtout que j'étais entourée de gens qui faisaient la littérature pour devenir prof, comme toi, Ramzi.
Ah ouais.
Et c'était des gens qui savaient très bien. Et heureusement, parce que tu as intérêt d'avoir la vocation. Mmh. Je suis fille de prof, je sais que tu as intérêt de savoir ce que tu veux faire.
Et toi, prof, c'était pas envisageable ?
Impossible.
Ouais.
Je savais que c'était pas pour moi. Je voyais bien ce qui animait mes parents et que moi, ce truc-là, je l'avais pas. Donc, par contre, la matière m'intéressait, j'avais envie de l'étudier.
T'aimais la littérature.
Bah oui, j'aimais lire. Enfin, en vrai, c'est juste que j'aimais bien lire. Ouais. Et puis j'ai grandi dans le monde des livres. Mon père aussi était diffuseur. Enfin, il y avait un truc. Donc je me suis dit, la littérature, ça semble assez logique. Puis je voulais rester à Fribourg aussi, j'étais hyper attachée à ma ville. Voilà, les autres facs étaient pas...
Tu dis que c'est une petite ville, Fribourg ?
C'est genre 90 000 habitants. Ah ouais. Tu vois. Salut Kiki.
Ah, Kiki vient de monter sur la table.
Kiki est là, parce qu'on enregistre.
Donc moi, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire, mais je me disais, bon... continue quoi, enfin finis ces études là. Donc j'ai fini ces études là avec vraiment passion quoi. J'ai adoré faire ça, j'ai adoré étudier ça, j'adorais étudier en fait contre toute attente parce que jusqu'à l'uni, enfin j'aimais pas trop ça, mais par contre à l'uni j'ai adoré ça. Et après il a fallu que je fasse quelque chose. Donc la validation, enfin, j'y arrive, c'est parce que je savais que je voulais pas être prof. Il y a un type qui décide de lancer un séminaire à l'université, un type de droite, un type chasseur de tête, enfin tout ce que a priori on est censé détester, vraiment l'arrogance absolue, et qui dit bon, écoutez, je vois qu'il y a plein de gens paumés un peu en lettres et tout ça, donc je vais organiser un séminaire pour vous vendre dans le monde de l'entreprise, pour ceux et celles qui ne veulent pas continuer. Qui veut pas être prof ou machin quoi. Je me suis dit, mais c'est pour moi, enfin c'est évident, il fallait s'inscrire, lettre de motivation et tout. Alors ça, sur ce coup là j'étais hyper motivée, je me suis dit bon. Et en fait ce type là contre toute attente a été hyper déterminant. Ça fait chier de l'admettre, mais il faut admettre. Ce type-là, il disait, mais vraiment, façon Startup Nation, quoi. Vous pouvez faire quelque chose, vous valez quelque chose. Votre créativité, votre logique, même si elle est très différente et a priori inutile, mais elle peut amener quelque chose. Voilà, quoi. Et puis, il faut se vendre, en fait. Même s'il n'y a rien à vendre, vous le vendez, quoi. Vraiment. Et ce type-là, complètement, je me dis, ah, OK. Et en fait, il nous entraînait à faire des entretiens d'embauche et tout, mais vraiment des trucs très pratiques, quoi. Parce que c'est vrai que si tu fais les lettres en Suisse romande, enfin, si tu débarques à Nestlé, que ça, enfin, je voulais pas aller à Nestlé, mais enfin, il y avait un truc de, tu vois rien, en fait, voilà. Et si t'as pas fait droit à Sciences Po, machin. Et donc, j'ai suivi ce cours assidûment. Ouais. Et on faisait des exercices. Ça m'a fait aussi beaucoup de bien pour ma manière de me présenter, pour parler, pour interagir et tout. Enfin, sur ma timidité, c'était trop bien. Et du coup, voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, maintenant, je vais faire des petits tests. C'était bientôt la fin de mes études. Je vais commencer à... Qu'est-ce que je pourrais bien faire et tout. Puis, je vous ai parlé de ce journal que j'aimais bien lire, La Liberté, le quotidien. Et je me suis dit, ah, mais ça peut être cool. J'aime bien écrire. Mais je n'avais jamais fait une pige. Enfin, arnaque absolue, quoi. Enfin, tous mes collègues qui sont journalistes et tout, on fait plein de piges à 18 ans. Enfin, et moi, rien du tout. Et donc, je me dis, ah, ça, j'aimerais bien faire. Écrire. Rencontrer des gens, écrire. Enfin, j'ai une petite idée comme ça du journalisme, très vague.
Ouais.
Et, mais je me suis dit, bon, attends, il a dit machin, là, dont j'ai oublié le nom. Il a dit machin, il faut vous entraîner avant d'avoir ce que... Donc, il faut un peu vous frotter un peu à l'entretien. Donc, tu vas faire un entretien d'un truc où tu t'en as rien à foutre. Et puis après, comme ça, tu seras prête et tout. Puis paf, tu vas à ton entretien, l'entretien important. Alors, le truc, rien à foutre, c'était Radio Fribourg. C'était une radio régionale dans le coin que j'avais jamais écoutée. Enfin, on n'écoutait pas du tout Radio Fribourg à la maison. Et donc, je vais à ce truc. Enfin, j'écris, je cherche un stage et machin. Et puis, le rédacteur en chef me dit ah ben, ça tombe bien, on cherche des stagiaires. Enfin, c'est, en Suisse, il y a un système de stage, c'est 2 ans de stage avant d'avoir une carte RP et tout ça. Bon. Et donc, je dis, ah ouais, trop bien et tout. Donc, moi, je me dis, je vais m'entraîner. Et puis, en fait, à cet entretien, enfin, j'ai eu un cul, enfin, c'était immense, quoi. C'est-à-dire que j'arrive, ce mec s'appelle Martial, le rédacteur en chef, une connexion mais immédiate. Le type va me montrer ce que c'est un studio. J'ai jamais vu un studio. Enfin, j'avais même pas la curiosité. Tu sais, tu peux aller visiter hein, les studios. Même pas. Je vois ce studio. Je dis, ah, c'est cool. C'est quoi ? C'est un micro, machin. Il dit, tu veux essayer ? Il me faut un casque. J'entends ma voix. Je fais, oh, yeah. J'ai adoré ça. Et on a fait un entretien. Enfin, voilà. C'est trop cool. On a fait des essais. Il m'a commencé à me filer des brèves ATS, enfin, l'agence télégraphique suisse. Et puis, il fallait faire un petit journal. Enfin, mais je me suis éclatée, quoi.
Et il t'a parlé de ta voix ?
Non, il m'a dit mon énergie. Il m'a parlé de mon énergie. Il m'a dit la voix. Bon, après la voix pour lui, enfin, il a raison. C'est un détail. Enfin, n'importe quelle voix à la radio, elle passe quoi. Si tu la bosses un petit peu ou pas, même.
Ouais.
Mais en fait, en Suisse romande, contrairement à la France, on a vachement plus de voix différentes. On a des voix aiguës. On a des voix. Enfin, ça passe mieux. Enfin, je trouve que oui. Puis la manière de parler, le phrasé. Enfin, il y a ça, plus de variations. On a nos accents aussi, machin et tout. Ouais. Voilà, donc non, il m'a pas parlé de ma voix, mais il m'a parlé de mon énergie, puis il me dit t'as l'air d'avoir du plaisir, puis t'écris bien, puis tu... Enfin,
oui, donc il t'a valorisé.
Oui, puis il m'a vu heureuse derrière un micro.
T'as une belle voix, Christine, tout simplement.
Et puis il m'a dit t'es faite pour ça. Donc deuxième validation d'un autre homme blanc hétérosexuel.
Donc c'est bon, à partir de là, c'est bon.
Je me dis
t'as quel âge à ce moment-là ?
J'ai 25 ans.
Mais à l'entretien nouveau, j'ai dit t'es faite pour ça ?
Ouais.
Ah ouais ?
Ouais.
Et tu le crois ?
Bon, oui. Allez.
Écoute, oui.
Non, mais pas de. Mais c'est candide, ma question. Elle n'est pas chargée.
Oui,
de...
oui, non. Ouais, mais quand tu ne sais pas ce que tu veux faire, je pense que c'est vachement important de quelqu'un qui te dise t'es faite pour ça, surtout si c'est un truc sympa.
Bah,
quoi.
Surtout si c'est quelqu'un qui te plaît. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui t'inspire des choses.
Ah non, mais ce
positives.
Type. Et d'ailleurs, enfin, je lui dois énormément. Enfin, ce Martial Messeyer, c'est vraiment le type qui m'a donné le goût, enfin il a une passion, lui, mais vraiment, c'est journaliste qui croit à mort, à la radio, au son, il faut toucher le son, et puis il m'a passé des heures avec des logiciels de son et tout, à me faire écouter, à me faire réécouter, à me faire bosser les sons, à me faire faire des reportages, à faire des revues de presse, on faisait tout quoi, c'était génial ça, c'était génial. Et puis oui, puis il y avait ce truc, c'est ça qu'il a vu en moi, c'est-à-dire qu'il a vu un endroit où j'étais à ma place.
Et est-ce que tu as eu l'impression à ce moment-là, en t'engageant dans cette voie-là, que tu faisais une chose qui était totalement différente de ce que faisaient tes parents ou tes grands-parents, ou que d'une certaine manière, tu ne faisais que, en décalant un peu, rester dans le sillon que eux avaient creusé, dans lequel ils t'avaient élevé.
Une forme de transmission, tu veux dire ?
Oui.
Là-dessus ?
Bah non, parce que, alors, je précise ça parce que moi, sur le papier, en théorie, je fais rien qui ressemble à ce que faisaient mes parents. Et en fait, je fais exactement ma mère prof. Ce qui m'impressionnait le plus chez elle, hors de ses qualités pédagogiques, c'était même son attitude.
Elle était prof
Moi, elle jouait son cours. C'est-à-dire,
elle était prof de lettres.
Elle était prof de lettres. Mais pas seulement ça. Enfin, je veux dire, je pense que si j'ai eu envie d'être actrice, c'était ma mère que j'avais dans l'œil. C'est-à-dire ce qu'elle dégageait.
Quand t'es prof, tu fais une représentation.
C'est une représentation.
Devant des élèves, tout ça.
Oui, et ma mère m'expliquait qu'elle n'était pas la même personne quand elle passait
T'ajoutes la transmission d'œuvres littéraires. Donc,
mais ça m'est venu ces dernières années.
Ça fait beaucoup, quand même.
Ah, bah là, ça fait qu'on dirait vraiment que tu veux être ta mère.
Ouais, clairement.
Et oui.
Et je le dis.
Mais je le rappelle pas, il est au courant.
Donc, vas-y, on revient sur la question.
Donc, moi, je me suis pensée très longtemps, en tout cas quand j'étais jeune, comme quelqu'un qui avait fait un immense pas de côté par rapport à sa famille. Et en fait, pas du tout.
Non, moi, c'était... Mes parents, ils étaient assez contents, que je trouve... Enfin, ils m'ont vue malheureuse. J'ai des parents absolument adorables, très aimants. Et, ils voyaient leur gamine depuis 15 ans complètement perdue, qui ne savait pas ce qu'elle foutait là. Enfin, vraiment, j'étais vraiment super mal. Et ils étaient... D'un coup, ils voyaient la lueur dans le regard. Ils se sont dit, ah, Donc non, et puis journaliste, c'est pas dégueu comme métier à leurs yeux. Donc non, il y avait un truc, non, ils étaient assez contents. Mais ce que tu racontes là, moi, je l'ai eu plus tard. C'est-à-dire que moi aussi, j'étais chroniqueuse littéraire. Et ma mère était aussi prof de lettres. Donc il y avait ce truc de... Voilà, on pouvait parler de littérature, elle était très fière de moi, elle en parlait. En plus, je bossais sur une chaîne, c'était RTS Culture, enfin c'était Espace 2, c'est la chaîne culturelle de la RTS à l'époque, que personne n'écoutait, mais était là.
Mais un télo, quoi, que voilà. Les profs écoutent peut-être.
Ouais, et puis là, ma fille France est sur Espace 2, elle est coproductrice d'une émission de littérature, elle reçoit des écrivains tous les jours, elle était super fière. Et puis en fait, ça me désole un peu. Aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis, mais c'est fou ce truc, j'allais chercher vraiment de... t'en sors pas, quoi, faire plaisir à maman, enfin, tu vois, un truc. Après, j'ai fait une émission de cul, puis là, c'est bon, c'était réglé.
Ma mère, ah ouais, c'est
là,
super
ça... Non, là, ma mère, elle a pu parler de moi, c'était réglé.
Mais c'est passionnant, ce truc de la validation ou pas que tu cherches ou dont t'as la nécessité par rapport à tes parents. Il y a plein de gens qui sont complètement libérés de ça, dès le départ.
C'est Ramzi,
dit-elle en fixant Ramzi Hassadi. Et il y en a d'autres qui sont moi, par exemple, je pense que je m'en suis jamais libérée. Par contre, j'ai arrêté d'en être triste.
Ouais. Et toi, François,
à quelle question?
Faire plaisir aux parents.
Alors moi,
besoin.
Alors moi, c'est plutôt le chemin inverse, c'est-à-dire que moi, j'ai dû me détacher un peu de la vision que mon père avait du métier parce que c'était générationnel. J'ai eu un peu un roman familial où mon père il est parti de très très bas. Moi j'ai des grands-parents agriculteurs, donc si on parle de
français. C'est pas bas agriculteur. C'est le niveau de la terre, bien sûr.
Oui, non, mais sinon... enfin, je veux dire, tu gagnes pas, enfin, c'est quand même difficile, c'est un métier difficile. Enfin, y a le transfuge de classe, c'est ma mère plutôt qu'il a eu qui est devenue instite. Et mon père, lui, était. A pas réussi ses études à la campagne, donc il a commencé, tu vois, CAP frigoriste, donc très bas. Mais c'est une génération qui, en travaillant, réussissait à monter les échelons. Donc j'ai eu ce roman de truc de faut travailler, puis il faut avoir de l'ambition, passer manager, tout ça, parce que c'est le truc qu'il a fait. Et longtemps, je me suis attaché à ça dans ce que je devais faire, même artistiquement. Il fallait que je passe des étapes et tout, jusqu'au moment où je me suis dit, mais en fait, je suis à un endroit, mais j'ai pas forcément besoin d'aller plus haut pour être heureux. Si je m'amuse, même ne serait-ce que quand je fais une émission de radio, j'ai pas besoin d'être le manager des réalisateurs, tu vois. Du coup, ça, je l'ai compris il y a pas longtemps. Mais longtemps, j'ai suivi la trace de mon père, en tout cas le cheminement de pensée, qui était le sien, quoi. Mais quand t'es ado, quand tu. Et c'est bizarre, ça bascule aussi quand je pense pas tout à fait comme lui politiquement.
Ah bon, c'est très
mais
étonnant.
Après, je l'adore, il m'a inculqué plein de trucs, enfin, j'ai plein de leçons de vie, mais c'était son chemin, et je sais, et pareil, hein, ma psy est au courant, hein, mais il y a un moment, j'ai dû me détacher en me disant, mais c'est pas le mien, je pars pas du même endroit que lui, et je vais pas au même endroit, certainement.
Puis surtout, je suis pas lui.
Et je suis pas lui, et j'étais déjà par lui qui avait débarré très bas. Moi, je démarrais pas très bas. Moi, j'ai fait des études. À 19 ans, je réalise des émissions radio. Donc, j'étais déjà, en fait, quand je rentre dans le monde du travail, déjà à un poste important. Donc, mais j'étais quand même dans ce truc de il faut que j'ai le directeur des programmes ou je dis n'importe quoi. Mais... Donc, non, c'est plutôt l'inverse, moi. Et je m'en suis détaché vers la 35-40, quoi.
Ouais, mais nous, les filles, avec nos mères, quand on s'entend bien avec elles, on n'a pas trop le choix, en fait.
Oui.
On est ligotées et puis on vit dans un monde patriarcal. Donc, en plus, on leur doit un truc. Okay. C'est comme ça. Faut être une gonzesse pour savoir.
Et donc, dans cette radio, tu as commencé par faire quoi?
En fait, j'ai fait une formation de journaliste. Mais ce n'est pas comme ici en France où il y a beaucoup d'écoles et tout ça. En Suisse, il y en a maintenant qui commencent à émerger. Mais tu dois faire 2 ans de stage dans une rédaction où tu es payé correctement.
Ah oui, ce n'est pas les stages français.
Ce n'est pas les stages gratuits. Hein.
Ouais, ce n'est pas comme en France.
Non, c'est vraiment parce que... Et à raison, parce que tu bosses vraiment. Enfin, tu fais que ça.
En France aussi.
Ouais, ouais. C'est un peu le problème.
Ce n'est pas faute de dérouler des heures. Hein.
Ouais.
Et tu bosses, enfin tu fais vraiment partie intégrante de la rédaction.
Ah ouais, nous aussi.
Tu fais les journaux, tu fais les rédactions
en chef. C'est toi qui es la rédactrice en chef. Bah oui, le stagiaire aussi en France.
C'est ça. Non, ça, c'était...
Et donc, tu faisais quoi? Toi, t'étais...
Bah, en fait, tu fais 2 ans où tu fais tout. Enfin, tout le monde faisait tout. C'est pas parce que t'es stagiaire, c'est parce que tout le monde fait tout.
Parce que c'est aussi une petite structure.
Ouais, mais dans la rédaction, quoi, on était 6-7 comme ça. Et puis, donc, tu fais... Enfin, t'as des horaires déjà différents toutes les semaines. Ça, c'est un truc cool. Tu vois, ça passe de 4h du matin à le soir ou le jour. Enfin, voilà. Ouais. J'ai pris 15 kilos, mais sinon, tout était super. La pizza à 9h du mat, non.
On déconseille. Alors, on déconseille.
C'était vraiment hyper chouette parce que moi, j'adorais l'exercice de la revue de presse. Ça, c'est un truc que j'adorais faire. Après, les journaux, les machins. Mais après, c'était radio locale. Hein, donc, c'est-à-dire que tu vas faire les trucs, les fromages, les foires du Vacherin, le Conseil
donc
d'État.
Toi, tu partais en reportage
Ouais. Et puis, en plus, moi, j'habite dans une région bilingue. Radio Fribourg, enfin, et Radio Freiburg étaient ensemble. Donc, c'était séance de rédaction en commun. Chacun parle sa langue. Et puis, des fois, en fait, parce qu'on était peu, donc il fallait se rendre service. On prenait des sons dans l'autre langue et tout ça. Ce qui était assez problématique pour moi parce que le suisse allemand, c'est un dialecte. Donc, moi, l'allemand, ok, mais le suisse allemand, là, des fois, on parlait, puis je fais
okay.
Question suivante, vraiment, ça se trouve, le mec, il est en train de me dire, je vais tout péter, vous êtes tous des cons. et puis, oui, donc, rédaction, tu fais vraiment, tu nourris les infos, quoi, enfin, tu vas chercher les sons et machin, tu fais les cons. Tu sais, c'est vraiment le matin, classeur. Aujourd'hui, il y a ça, qui veut aller et tout. Alors moi, je voulais chaque fois essayer de faire des trucs où il n'y avait pas trop de chiffres, où il n'y avait pas trop de budget, machin, enfin, tous ces trucs qui me faisaient chier. Et puis, il y avait aussi mais il y avait tout. Tu faisais des émissions de débat. Et ça, c'était cool aussi, j'aimais bien. C'est le mercredi soir, ça s'appelait C'est-à-dire, un truc comme ça. Et puis là, c'était cool parce qu'on avait vraiment, on était dans un studio, t'as la régie et tout, puis t'es seul, hein, t'es en self, quoi. Donc t'as les micros, les gens qui arrivent, les machins, tu sors tes jingles, enfin t'es vraiment, enfin ça, c'est des trucs, c'est avec des invités que t'as toi-même bookés, qui sont certainement mauvais, t'es certainement mauvaise aussi, mais tu fais vraiment, tu le fais, quoi. C'est ça qui est génial. Et puis voilà, donc c'était deux ans, en fait, je suis restée 5 ans là-bas.
Après les 2 ans de stage, t'as été embauchée.
J'étais engagée à Radio Fribourg. Et puis je me suis dit, je sentais bien que le journalisme, enfin tel qu'on me l'apprenait, après plus tard j'ai compris que peut-être j'ai eu tort de l'envisager comme ça, le journalisme, mais tel qu'on me l'apprenait et que je l'avais intégré, il fallait que ce soit de la rupture, il fallait que la personne que j'avais en face de moi, le premier regard que je devais poser sur elle ou lui, c'était de dire tu me prends pour une conne et tu vas voir, je suis pas une conne, et tu vas essayer de m'avoir, et tu vas voir, tu vas pas m'avoir. Enfin, il y avait un rapport de force d'entrée implicite entre la personne que j'interviewais et moi, puis en fait, ça me saoulait. Enfin, vraiment, ça me saoulait. Je pouvais pas être en mesure de le théoriser, maintenant je comprends.
Mais à
l'époque, je me disais juste, j'aime pas ça, en fait. Moi, j'aime bien aller faire des interviews avec des gens que j'aime bien.
En douceur, quoi.
Oui, mais peut-être qu'aussi le fait de travailler à la rédaction pure,
t'as
pas beaucoup de temps, faut tout de suite rentrer dans l'interview, puis il y a des enjeux dans l'interview qui est pas forcément dans un entretien avec quelqu'un
qui
apprécie.
Non, c'est pas l'entretien, en plus, tu dois en tirer 4 sons de 25 secondes.
Donc, tu fais un truc fort.
Oui, puis t'as pas le temps, t'as 4 sujets à faire dans la journée. T'étais là le matin, t'es dans l'autre bout du canton l'après-midi, tu vois. T'as pas le temps.
Ouais.
T'as pas le temps, pas plutôt faire des sons pour les Suisses allemands. Enfin, tu vois, donc,
ouais.
Donc non. Mais il y a un moment où. Donc c'était très. T'avais vraiment le Radio Fribourg, c'était les animateurs et les animatrices et puis les journalistes. Enfin, c'était deux mondes. Et on te disait clairement, ces deux mondes, tu choisis ton camp et puis basta, il n'y a pas de pont possible. Et puis moi, je commençais à sentir que je préférais quand même les animateurs et les animatrices. Enfin, que c'était quand même plus cool. Et il y avait une émission, c'était une meuf qui faisait ça depuis des années, qui avait une émission d'entretien tous les jours sur Radio Fribourg à 11h, L'Ombre du Baobab, et qui invitait des gens, et ça causait pendant 1 heure, puis j'adorais cette émission, j'adorais la meuf aussi, qui est tombée enceinte et puis qui a fait un congé mat, quoi, 4 mois, et puis personne dans l'équipe voulait, parce que c'est vrai que c'est une émission, c'est du boulot, quoi.
Ah, ouais, 1 heure par jour.
Une heure par jour, encore en self, qu'elle book elle-même, enfin... Et dans son équipe.
Qui lève le doigt.
Ah non, mais moi je me suis roulé par terre. J'ai demandé à mon rédacteur en chef, j'ai dit s'il te plaît, laisse-moi, sors-moi de là 4 mois. Je reviens après, promis, mais là c'est 4 mois, s'il te plaît. Je rêve d'essayer ça et tout. Et puis il m'a dit bah vas-y. Et puis j'ai fait ça, je l'ai les gars, je suis désolée, je vais jamais revenir.
Aïe, t'as menti, promets, je reviens. Et en fait, t'es parvenu.
T'as fait comme ceux que t'interviewais.
Le mensonge originel, biblique de Christine Gonzalez, dévoilé.
La truande.
Non, c'était pas possible. c'était pas possible. Et puis au bout de la cinquième foire du fromage, j'ai adoré ça. Je dis ça sans mépris, au contraire. Enfin, ouais. Moi, je trouve que ça m'a vraiment aiguisé le muscle de la créativité. Comment est-ce que, tu vois, la cinquième foire, qu'est-ce qu'on fait le jour du roller, comment ça peut être original.
Je voulais dire le jour de la marmotte. C'est
presque ça.
C'est exactement ça.
Mais oui, ça forme parce que ça te force à trouver des angles. Des idées. Vite en plus, parce que t'as pas le temps.
Oui, puis moi, je voulais toujours que le rédacteur en chef, c'est vraiment mon côté première de classe, qui fasse « Ah ouais, bonne idée
!» Avec la petite tape sur l'épaule.
Ouais, c'est genre « Ah ouais, Christine !»«
Ah, c'est bon, je suis un être humain !»
Tu nous étonneras toujours, Christine, c'est super. Et puis, ouais. Et puis
finalement,
après,
t'as le droit de vivre.
Non, là, ça va trop loin, Julie.
Mais, pardon, mais quand j'entends Christine parler, c'est ça évoque des choses que je sens en moi et que j'essaye de faire d'ailleurs. Mais c'est bon, j'ai droit à ma ration d'oxygène pour continuer encore 24 heures.
Je peux prendre une petite place dans le monde.
Et alors, du coup, tu fais cette émission.
Oui, et puis après.
Et tu lâches plus le truc.
Je lâche plus le truc, mais par contre, il faut que je quitte Fribourg, c'est évident. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre.
À cause des Suisses allemands.
Non. Essentiellement, à cause des Suisses allemands.
Donc, il n'y avait pas de place au programme, peut-être.
Non, et puis surtout que je voyais bien qu'il me fallait du temps, en fait, que ce qu'elle fait, et ce qu'elle fait encore, je crois, Amaëlle. C'est incroyable. Enfin, mais que moi, il me fallait plus de temps. Même cette heure, elle ne me suffisait pas. Enfin, j'avais besoin de rencontrer vraiment les gens, de vraiment les choisir. Et donc, je me suis dit, bon, bah, il faut que je me casse. Enfin, voilà. Et en plus, je suis tombée super amoureuse d'une meuf qui habite à Lausanne à l'époque. Et puis, je me suis dit, il faut absolument que je quitte Fribourg. Enfin, il faut que j'aille à Lausanne. Ah, c'est incroyable, il y a la radio suisse romande, enfin, la RTS. Et puis, j'ai essayé de sortir. Et puis, de toute façon, en vrai, tu n'as pas tellement le choix en Suisse. En Suisse romande, tu as les radios régionales et puis la RTS. Ouais. Qui est le seul média national. Bah, t'as pas de Europe 1, de RTL, de machin.
Radio privée. Ah oui,
t'as pas
de radio privée.
National, il n'y a pas. Il n'y a que la RTS.
Ouais.
Y
a Couleur 3, c'est pas...
C'est la RTS.
Ah, c'est RTS aussi.
Ouais. Ah oui. Ouais. Couleur 3, c'est la première.
Ah, c'est l'équivalent
Espace
du Move,
2, Couleur 3,
chez nous, quoi.
Option musique, tout ça, c'est la RTS. La radio, quoi.
OK.
Donc, j'ai postulé. J'ai postulé, ouais, et puis pour une émission, c'était un peu absurde parce que comme j'étais journaliste sur le CV et machin et tout, puis moi j'étais hyper naïve, je savais pas trop comment postuler, en vrai je connaissais personne, donc j'ai envoyé au RH, enfin vraiment le truc, ouais, je pensais qu'il fallait faire comme ça, et puis...
Bah, je pense que tout le monde pense qu'il faut faire comme ça
au début.
Oui,
c'est vrai, mais c'est vrai que ça paraît assez naïf en vrai.
Et il faut faire comment en fait?
Bah, disons que si tu peux commencer à contacter des prods qui, eux et elles, ont un peu de pognon pour des piges, et puis commencer comme ça à faire une pige.
D'accord.
Et machin,
en fait,
gna,
mettre
gna,
un pied, puis
ensuite, mettre un pied, puis après, comme ça. Moi, j'envoie mon CV avec un CD au RH.
Une
et tout.
Maquette.
Et puis, ils me disent, venez pour un entretien, ce qui était déjà assez miraculeux. Et donc, je vais à un entretien, puis en fait, ils avaient convoqué la rédactrice en chef. De la RTS, et puis enfin bref, ils ont pensé que je voulais être journaliste en fait.
Ouais.
Donc c'était vraiment un entretien très compliqué pour moi, parce qu'au bout de 5 minutes d'un coup tu as l'impression que tu t'es pointé au mauvais date, quoi. T'es là, ah merde, il y a malentendu, quoi. Et il se dit, mais vous voulez faire quoi en fait? Je fais, ah ben moi j'aimerais bien faire le programme, c'est comme ça qu'on appelle le magazine, quoi, le programme. Ben, j'aimerais bien faire du programme. Puis la rédactrice en chef qui me regarde en disant, mais se fout de ma gueule celle-là. Puis je lui dis, mais je veux pas être Philippe Reva, je veux être Madeleine Caboche. Enfin, c'est des noms pour donner une idée de je veux pas être le journaliste star. Moi, je veux être la meuf qui est super cool, Madeleine Caboche. C'est une meuf que j'admirais, qui faisait des
Nicolas
émissions
Demorand,
d'entretien.
Je veux être Charlie
Manacœur. Putain, ouais. J'avais la même. C'est ouh.
Ouais.
C'est exactement ça.
Faut décrocher, hein, les amis.
Je veux pas être Léa Salamé.
On est lundi, là.
Oui, mais on parle à des gens qui ont des références.
Ouais, oui, d'accord.
Donc voilà. Et donc on me dit, dégage, en gros, donc erreur.
Aïe.
Et puis après, j'ai compris, je suis là, en fait, non, c'est pas la bonne porte. Il faut que j'aille voir directement les directeurs et directrices de programmes et tout ça. Et puis je me suis dit, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est la littérature, parce que j'ai toujours adoré ça. Et j'adore la radio. J'ai pigé que c'est mon truc, la radio. J'adore ça. Et si je pouvais, rejoindre ces deux passions, ce serait extraordinaire. Il y avait une émission qui était trop cool sur Espace 2, la chaîne culturelle de la RTS. Et donc, je vais directement, taper à la porte de cette émission, rencontre avec le directeur des programmes. Et puis ça, j'étais devenue... Ils cherchaient quelqu'un. Il y a quelqu'un qui se barrait, en fait, pour une coprod.
Ouais, super.
Et je suis passée de journaliste dans une petite radio régionale à coproductrice d'une émission sur Espace 2... de littérature, quoi, d'entretien d'une heure tous les jours avec des auteurs, des autrices, des comédiens et des comédiennes qui lisaient des extraits en direct. C'est une émission incroyable, quoi. Ouais, ça, j'adore.
Mais c'est la RH suite à l'entretien qui te redirige vers... Non, pas du tout.
Alors,
c'est
on ne se verra plus avec la RH. D'accord. Non, c'est moi qui vais taper aux bonnes portes et tout ça. Ouais. Ouais.
Alors, attendez.
Je vais me laver les mains parce que j'ai caressé Kiki et du coup...
T'es allergique.
Eh ben on va continuer tous les deux, Christine, en date.
Mais François, attends, à 19 ans, je voulais pas t'interrompre, ouais. Mais à 19 ans.
Ouais, parce que moi, je fais après le bac. On continue sans vous, hein, c'est pas grave. Non, moi, après le bac, donc je viens à Paris pour faire mes études donc à l'ISTS, qui est la section son de l'ESRA, l'école de réalisation audiovisuelle.
Mais tu sais que tu veux faire ça ?
Non, moi je fais de la musique au départ. Et je veux faire ça parce que je veux faire des studios d'enregistrement, tout ça. Et en fait, je me rends compte que ça me botte pas parce que moi j'aime faire de la musique, mais pas forcément être ingénieur du son. Mais je continue parce que ça m'intéresse. Et en fait, la créativité arrive vite. Mais il y a un truc, un déclic, c'est on fait la radio des journées portes ouvertes avec une des profs. Et c'est là où, en fait, moi la technique, je m'en foutais, ça me faisait chier, j'arrivais pas à l'apprendre. Et là, quand il a fallu faire des jingles.
Là, tu t'éclates.
Là, d'un coup, je me dis, bon, ok, donc il va falloir que je me serve. Et en fait, j'ai appris la console de mixage, des trucs comme ça, pour faire le jingle. Donc en fait, la technique, moi, j'ai toujours appris parce qu'il fallait un but, tu vois, créatif.
Ouais.
Et en fait, au bout d'un an, on fait ce truc-là. Donc je suis hyper créatif, je fais des trucs avec des grosses voix, des musiques. Et à la fin de l'année, je dis à ma prof de radio, bah, j'aimerais bien faire un stage l'été. Elle me dit, ah, bah, je travaille à RFI, bah, viens. Et donc, avec un pote qui était mon colocataire, on fait tout l'été à RFI, Radio France Internationale, au programme, service magazine. Je reste tout là-bas, je m'éclate, je me fais plein de potes. Et à l'issue du truc, pour aller vite, un jour, je débarque un peu avant Noël. Et la rédactrice en chef mais des magazines dit « Ah, on a besoin de réalisateurs, est-ce que tu veux ?» Et moi, j'avais fait de la technique, de l'animation, du reportage. J'avais vraiment co-animé une émission. Et j'avais jamais fait de réal. Et je dis « Bah ouais, bien sûr !» Et me voilà embarqué à 19 ans à faire mes premières émissions. Ouais. Ouais. Et après, j'ai enchaîné, mais j'ai fait beaucoup d'infos après, c'était moins sympa. J'ai réalisé les infos pendant 10 ans.
Ah ouais,
ouais.
Où ça ?
Bah, RFI aussi, mais matinale, tout ça. C'est là où je rencontre Julia Foyce.
Ouais.
Où en fait, elle fait ses premiers journaux de nuit avec moi et tout. On a rigolé. Voilà. Et donc, je finis mes études.
On vous dérange pas trop ?
Non, mais non, mais c'est pour les auditeurs, c'est un petit aparté comme ça, après pouvoir venir, vos questions. Et donc voilà, et en fait, c'est mon premier métier, j'ai fait plein de trucs, mais j'ai toujours fait de la radio comme ça depuis 19 ans.
Ouais.
Et oui, réalisateur à 19 ans, c'est exceptionnel.
Et quand t'as RFI aux infos, tu dis je me fais chier, j'aimerais faire plus de création, des trucs.
Non, parce que j'apprends plein de choses, je m'éclate, il y a le truc de l'adrénaline, je fais des éditions spéciales, je fais Hafez al-Assad qui meurt, enfin, il y a plein de trucs, je fais la deuxième guerre en Irak, tu vois. On attendait tous, là. C'est vraiment le cliché, mais c'est ça, on attendait tous que les bombes tombent, tu vois, dans la salle de rédac. Alors ça va tomber, ça va tomber. Et au bout de à peu près 10 ans, de 7-8 ans, j'en ai remarre, et là je dis à mon manager, je veux retourner au programme. Et là je me rééclate. Et puis après j'ai fait d'autres choses en parallèle, tu vois, ouais. Là où je fais comédien.
Ouais. Ouais, c'est ouf, 19 ans, quoi, c'est bébé, quoi.
Ah ouais, j'étais bébé, hein. J'étais vraiment très très jeune.
Ouais.
Mais après, je réalise. Enfin, je sais faire des choses, mais j'arrive pas à 19 ans et je sais faire tout ce que je sais faire aujourd'hui, quoi, tu vois.
Mais ça te plaît ?
Je m'amuse, je mets des musiques que j'aime bien dans mes émissions, ah bah que j'aime bien et tout ça, voilà.
Ouais. Justement, c'est quelque chose qui vous lie tous les deux.
Oui, bien sûr.
C'est sur
on
fabrication,
est lié avec Christine.
La fabrication de. Je sais pas comment on peut dire ça,
d'émissions de radio,
la
partie artistique,
de son, quoi,
création artistique, création sonore. Bah, moi, je suis réalisateur.
Tu peux raconter un peu ce que c'est le métier de réalisateur, parce qu'en fait, j'avoue qu'on sait pas trop ce que c'est.
Mais tout le monde sait pas ce que c'est.
On pense que c'est la personne qui lance les sons, mais en fait non, parce qu'il y a un technicien qui lance les sons.
Sauf que tu peux avoir un réalisateur qui lance les sons.
Tu
aussi,
peux avoir un, voilà.
Les radios.
Mais toi, t'es assis à côté du mec qui lance les sons, donc on sait pas trop à quoi tu sers.
Ouais, voilà. Alors réalisateur radio, c'est complexe parce que c'est à la fois des choses très concrètes et à la fois des choses pas du tout concrètes, et c'est compliqué de transmettre si t'as pas fait. Mais bon. Et en même temps, il faut savoir que Christine, tout ce qu'elle a dit tout à l'heure, où en fait tu fais tout, tu boucles tes trucs, tu fais tes créations, c'est normal. En fait, Christine, elle n'est pas juste animatrice ou chroniqueuse, elle est aussi réalisatrice en vrai. Parce que en Suisse, ils n'ont pas les mêmes moyens que chez nous, et que même quand tu fais une émission, il faut que tu te battes pour un réalisateur, tu n'en as pas forcément, tu montes toute seule, voilà. Donc, même
on a des super réals. Hein.
Oui, oui. Mais
il n'y a pas technicien, par contre, voilà. Les réals, ils lancent les sons et tout. Hein, ouais, pour les émissions.
Le travail qui est fait dans sa chronique chez nous, par exemple, c'est on co-réalise le truc, en fait, parce que c'est elle qui fait toute la création sonore des sons, et comment même elle m'envoie des jingles, des trucs mixés et tout, en fait. Elle est autonome, la petite, par rapport à d'autres.
Tu sais bien, c'est pas condescendant, la manière dont tu l'as exprimé.
Non, mais c'est une blague, voilà, c'est la seule chroniqueuse qui est aussi réalisatrice, quoi.
Concrètement, par exemple, sur une émission, tu fais quoi?
Alors, pour partir du plus large, alors d'abord,
ça
réalisateur...
Va ça va être long. C'est une question...
Non, mais je vais aller vite. Oui, mais en fait, je suis en charge de la création artistique.
Comme j'ai une allergie, ça m'arrange.
Ouais. Non, c'est en,
je pose une question et ça part pendant 10 minutes.
Voilà, le temps que les médicaments fassent effet. Le réalisateur, c'est le garant de la partie artistique. Moins sur le contenu, l'éditorial, même s'il peut y avoir des... Toi, quand on travaille ensemble, Ramzi, parce que tu es plus sur l'éditorial, on a des échanges, mais on a des idées, on échange des idées, mais c'est vraiment tout l'habillage sonore, trouver... avec Juliette, la dramatique, on parle beaucoup. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va décaler la dramatique? Quelle musique on met? Est-ce qu'on décale? Est-ce qu'on illustre? Comment on peut trouver une blague sonore? Après, sur l'émission, en fait, on travaille avec nous à France Inter. On est un peu le bras droit du producteur, animateur. On est là un peu pour pas le cadrer, mais en tout cas pour l'accompagner. Et puis ça dépend si c'est un novice ou si c'est quelqu'un de chevronné. On travaille pas du tout pareil. On va être plus interventionniste si c'est un jeune qui débute, si on a l'expérience, et inversement.
En vrai, tu préfères quoi? Tu préfères le producteur ou la productrice qui sait exactement ce qu'elle veut entendre, ou tu préfères justement la personne qui débarque, qui sait pas trop, puis tu vas pouvoir y mettre ta patte?
Avoir du pouvoir et dominer quelqu'un.
Et l'écraser.
Non, alors...
Alors vous cessez de parler sur ce ton, et l'un et l'autre, à François, il est petit. Il est arrivé en skate ce matin, il est petit.
Je suis tombé deux fois.
Il est tombé deux fois, je lui ai filé de l'arnica.
Ouais, j'ai un bobo au pouce.
Voilà, il a bobo pouce, j'ai fait bisous de magique. Ça n'a pas suffi. L'autre, il a l'allergie au chat. Arrêtez.
C'est une très bonne question, et en fait, les deux, j'y prends un plaisir différent.
C'est une très bonne question, mais tu n'y réponds pas, donc.
Non, mais je vais expliquer pourquoi. Parce que, à la fois, j'avais fait Charles Pépin, il y a deux ou trois étés, qui était très novice en radio. Mais du coup, j'ai vachement plus attentif à ce qu'il va faire à l'antenne. On va débriefer plus. On va, je vais dire, là, sur le rythme, lance comme ça le son. Je vais être très technique sur... t'es pas obligé de le lancer. Tu peux balancer le son et le désannoncer. Ça donne du rythme la deuxième fois. Enfin, je vais être sur des trucs où... Je vais un peu le former
à la radio,
au rythme radio, à ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit dire, comment poser sa voix aussi. Je peux être coach vocal. Voilà. Mais par contre, Charline, quand j'ai débarqué dans l'émission, elle savait déjà faire de la radio. Et là, je suis plus au service. J'essaie de comprendre ce qu'elle veut et d'être plus force de proposition créative. Comme avec Juliette, quand on travaille sur sa chronique, le vendredi, on s'échange et je lui fais des propositions de son, on discute, on essaie de créer ensemble. Mais Juliette, c'est pareil, j'ai pas besoin de lui apprendre la radio, j'ai pas besoin de lui apprendre à jouer, quoi. Et du coup, c'est deux plaisirs différents. Okay. Après, je préfère faire une émission avec des gens qui savent faire, parce que moi, ça me permet de mettre plus de créativité,
D'aller plus loin, quoi.
D'aller plus loin.
Aller plus haut.
Mais accompagner quelqu'un qui démarre, c'est aussi hyper gratifiant, parce que quand la personne est formée, je repasse dans cette phase où je suis créatif et tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu rigoles? Aller plus
c'est
haut.
C'est Jugé qui décapsule.
Ouais, c'est pas grave. Donc donc voilà, il y a une partie les gens, donc c'est les jingles, la création sonore, tout ça, mais en fait, il y a un truc de entre guillemets management en tout cas de
n'hésitez pas à passer en x2.
Ouais. Non mais je m'en fous, et puis je peux en parler très longtemps, mais vraiment de collaboration avec le producteur pour essayer de concrétiser de façon sonore ce qu'il a envie, et puis sur l'émission là, sur le grand dimanche soir là, c'est un énorme truc où on est 30 personnes. Là, je gère 30 personnes entre les techniciens, les chroniqueurs, et là il y a un travail de coordination qui est énorme. On fait les répètes, après je réalise après à l'antenne. Mais toute la préparation, c'est énorme. J'ai des réunions dans la semaine. pour faire des briefs. Bah là, le micro n'a pas été ouvert. Comment on solutionne tel problème, machin. Voilà. Okay. Là, c'est plus chef de gare, maître d'œuvre, mais il y a toujours une dimension artistique.
Il y a toujours toute la préparation ou la fabrication des sons.
Ouais.
Et en plus, là, sur cette émission en particulier, ouais, il y a une partie gestion humaine, ouais, de tout le staff.
Et puis juste très court, sur la réalisation, il y a un truc aussi.
En fait, François,
aussi,
quand il commence, il dit « je vais faire très court ».
Ouais. Non, je vais faire très court, rien. Je vais faire très court. Et en plus, là, cette année, je fais deux émissions totalement différentes. Avant, c'était la quotidienne qui était encore un autre exercice. Mais là, je fais un énorme truc avec 30 personnes le dimanche. Et l'autre émission, on est trois dans l'équipe Bistroscopie. Il y a Charline, Ophélie, Latapro qui boucle les invités, qui travaille le contenu avec Charline et Charline. Et le travail de réalisation, là, il est différent. On essaie de trouver comment on va raconter de façon très simple, parce que c'est une discussion dans un bistrot, mais comment à l'intérieur on va trouver du rythme, comment on va créer, qu'est-ce que tu dis à ce moment-là, Charline.
Je trouve que c'est super bien réalisé, Bistroscopie.
Merci, c'est gentil.
Non, vraiment.
Et là, c'est une toute petite équipe et le travail de réal est n'a rien à voir avec le Grand Dimanche Soir. Donc c'est pareil, réalisateur radio, c'est plein de trucs différents. Et Christine va te dire, comme ça je donne la parole à Christine, c'est complètement autre chose encore, je pense.
Juste avant, j'ai une autre question. Qu'est-ce que tu préfères entre Bistroscopie et le Grand Dimanche Soir?
Eh ben, je vais faire comme tout à l'heure, j'aime les deux. Ce qui est vrai en plus. C'est pour de vrai.
Moi, j'adore le boulot avec les réals. On a des super réals. Par contre, il n'y a pas de meufs réals. Contrairement à Radio France, ouais, où il y a pas mal de meufs, en Suisse, romande, enfin la RTS, il n'y en a pas, il n'y en a plus. Il y en avait une, deux, là, où tu disais, bon, moi, il y a une ou deux meufs, là, il ne reste plus qu'une meuf sur une vingtaine.
C'est hallucinant. Triste,
ouais, et je ne comprends pas. Pour le coup, je ne comprends pas. Je peux comprendre plein de trucs au niveau des stéréotypes de genre et tout ça. Mais là, je ne vois pas pourquoi. Bon, c'est les métiers de la technique, c'est les métiers, je ne sais pas.
Oui, mais parce que tu as peut-être plus de technique. Nous, on ne touche pas la console.
Oui, je pense que ça doit tenir à ça, en fait.
Il y a quand même de la technique.
Oui, mais il y a un truc.
Les logiciels de montage, oui, tout ça, oui, il y a une partie technique.
Oui, mais là, moi, dans mes études
d'ISTS... Oui, mais la physicalité de la régie...
Mais déjà, qui se dirige vers les métiers techniques du son,
c'est les mecs.
C'est toujours les mecs. À l'ISTS, j'avais... On était 30, 35.
Dans quoi?
L'ISTS, c'est l'école. Oui, t'étais pas là, mais. L'ISTS, c'est l'école que j'ai faite de son. Et dans ma classe, qui était technique, il n'y avait que 3 meufs sur 35 élèves, mecs. Déjà. En fait, c'est que les filles ne se dirigent pas beaucoup vers la technique.
Enfin, disons qu'elles ne sont pas encouragées.
Ouais. Mmh. Et nous, les réels, sont moins techniques.
C'est ce qui évolue aujourd'hui.
Oui, peut-être aussi.
Est-ce que tu as vu une évolution, toi, par exemple, à Radio France, récemment?
Il y a toujours eu beaucoup de filles réalisatrices.
Ah bon? D'accord.
Ouais. Oui, oui.
D'accord, ok, je ne sais pas.
Ouais, et en Suisse romande, non, vraiment. Voilà. Mais tout ça pour dire que j'adore les réals avec qui je bosse et tout ça. Puis on imagine ensemble. Par exemple, je fais aussi des podcasts. Et puis alors, le travail sur le podcast, c'est vraiment autre chose en matière de son. Enfin, là, c'est autre chose que le réal qui débarque, machin, qui te lance ton jingle que tu fais depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, et puis machin. Puis,
là, tu travailles la matière sonore.
Là, c'est vraiment comment est-ce qu'on raconte l'histoire, comment. Puis c'est une co-création. Puis c'est incroyable. J'ai passé 3 jours de maquettage là pour un podcast avec mon amoureuse Aurélie sur les ex et tout. On a passé.
Ça, c'est un le podcast sur les ex.
Ouais.
Sérieusement.
Ouais.
Et alors justement. Oui. Tu et tout peux ça pour dire que. Comment...
Alors et là c'était génial parce que donc on est en train de les écrire et tout. Ça s'en rejoint. On est vraiment un peu au début. Enfin, on a beaucoup déjà travaillé et tout, mais on est en train d'écrire et machin. Et puis là, on nous a offert 3 jours avec donc Aurélie et moi. Le réal Marc Frochot, qui est le dieu de la réal. Après toi, François, bien sûr.
Non, mais...
Marc, tu sais que c'est pas... Et puis, Grégoire, qui est le producteur du podcast, enfin, producteur digital, etc. Et on est les 4 enfermés dans un studio pendant 3 jours à essayer des sons, un machin. Vas-y, fais-moi un truc, nanana. Enfin, parce qu'on fait une sorte de podcast réalité avec des jingles bien kitschouilles. Puis on s'amuse, on essaye, non, ça ne va pas, ça ne fonctionne pas, et machin, on fait autre chose.
Ah oui,
tout
vous,
ça.
Vous jouez la parodie d'une télé-réalité un peu.
Ouais, exactement. À l'intérieur du podcast, il y a 3 petits épisodes de télé-réalité, de podcast réalité dans le podcast et tout ça avec double narration. Enfin, c'est assez cool à faire. Et du coup, il faut réfléchir à quel langage on amène à ça, tu vois, s'il y a une double narration, s'il y a des personnages, il y a la vie, Aurélie, moi, nos potes, machin, puis il y a la vie de ce podcast réalité avec les castings, comment est-ce que tu vois, donc il faut des codes sonores et tout ça. Oui, entre... Ça, moi, passer trois... Mais ma vie pour ça, quoi. Trois jours dans un studio avec des gens qui, mais qui kiffent d'être là, en plus. Ouais. Personne faisait semblant, quoi. On s'éclatait comme des gosses, quoi, tu vois, à imaginer qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et en plus, il n'y a pas de... Enfin, il s'agit évidemment de rendre quelque chose, mais personne n'attend de toi que tu rendes une maquette après ça, que faire écouter à des chefs. Non, ils nous foutent la paix royale. Ouais. Et puis on a joué, quoi, on a fait joujou, quoi. Enfin,
mais concrètement, ouais, en fait, là, quand vous êtes sur cette phase-là, le podcast n'est pas encore écrit intégralement, mais vous avez une idée de ce que vous voulez faire.
Ah oui, depuis longtemps, oui.
Mais allez faire un... Donc vous allez parler de vos ex.
Pas que. Enfin, surtout parler d'ex. L'idée, c'est de parler des ex. Ça s'appelle le royaume des ex. Et l'idée, c'est de parler des histoires très constructives. On veut raconter des histoires hyper chouettes d'ex. Parce qu'on se dit, bon, les histoires de merde, on les connaît, on les a vécues, enfin, voilà. Mais là, ce qui pourrait être hyper inspirant, c'est de raconter des belles histoires d'ex. Ça veut pas dire que c'est pas fait dans la douleur, ça veut pas dire que c'était simple, ça veut pas dire que machin, mais c'est les transformations relationnelles. Ouais. C'est comment est-ce qu'on passe de ce statut romantique à autre chose, une amitié ou une coparentalité ou un truc pro, enfin, voilà. Et c'est toujours des histoires plutôt queer, parce que c'est de là d'où on parle, et des histoires de mecs, par exemple, qui vont qui sont plus ensemble et puis qui décident de faire une petite par GPA et qui vivent ensemble alors qu'ils sont plus ensemble, qu'ils ont des amoureux par ailleurs, etc. Et comment comment ça fonctionne. Enfin, c'est des super histoires, c'est super... Voilà, donc il y a vraiment ce récit-là, celui de la vie. Après, évidemment, comme on incarne le truc, on va toujours un peu checker dans nos vies où on en est et tout ça.
Mais c'était là où je voulais en venir, parce que j'imaginais la même chose dans un couple hétérosexuel. Et j'imaginais que le podcast, il arrivait jamais parce qu'ils s'entretuaient pendant.
Non, mais là, oui, c'est vrai que, par exemple, les lesbiennes, on a un petit... pas toutes, hein, évidemment, enfin, tout n'est pas exemplaire dans le royaume des Gwyn, mais je trouve que sur les questions du parcours amoureux et sentimental, enfin, je veux dire, déjà, si tu veux sortir samedi soir dans ta... Tu vois, dans une soirée queer, si tu décides de faire la gueule à tes ex, t'es foutu. Enfin, tu ne mangeras à personne. Enfin, je veux dire, t'as tout ton CV amoureux, là, sur le dance floor. Enfin, je veux dire, tu peux pas... Puis même, nos potes, quoi. Enfin, nous, on a un groupe de Gwyn, on est une quinzaine et tout ça. Il y a au moins 4, 5, 6 relations qui ont été vécues là, entre ces 15 personnes.
Donc il faut que ce soit digéré.
Bah, il faut,
parce que sinon, il n'y a pas de vie possible. Enfin, il y a une vie sociale.
Tu perds tes potes. Quoi. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a ça. Déjà, tu es obligé. Ouais. Et en même temps, tu dis, bon, en vrai, enfin, comme tu as plein de modèles de cet ordre-là autour de toi, tu dis, mais moi aussi, en fait, je peux en faire quelque chose. Enfin, moi aussi, je peux devenir pote avec cette personne que j'ai quand même hyper aimée. Enfin, pourquoi est-ce que d'un coup, je la détesterais et pourquoi est-ce qu'elle ne ferait plus partie de ma vie, quoi.
Est-ce que vous avez relevé, par exemple, dans votre réflexion là-dessus, est-ce que vous avez relevé cette absurdité totalement accepté, voire voulu par la société, notre monde en tout cas, qui est que tu as aimé follement pendant des années quelqu'un, qui t'a aimé follement pendant des années, et pour autant, à partir du moment où vous êtes séparés, plus de son, plus d'image, potentiellement, tout le reste de ta vie.
Ouais. Bah pour nous, c'est absolument impossible d'envisager ça.
Mais vous savez que c'est le tarif.
Alors, on sait que cette société fonctionne comme ça.
Et que c'est même ce que la société demande, exige et obtient.
Et que c'est les informations qu'on a reçues, qu'on a intégrées, et qu'on produit.
Et qu'une nana a donc le droit, par exemple, à partir du moment où elle est en couple avec un mec, de décider qu'elle a le droit d'être jalouse
de ses ex. Alors, nous, on racontera d'autres histoires, quoi. C'est ça, c'est tout l'intérêt. C'est des histoires, peut-être, que ces gens écouteront en se disant... Ah ouais, non, en fait, c'est vachement plus cool, là, ce royaume des ex, avec ce château, cette bordel, cette jungle derrière, les ponts-levis et tout ça, ça a l'air quand même vachement plus joyeux, quoi. Pour nous, c'est... Enfin, pour moi... D'ailleurs, moi, en général, enfin, là, je parle de ma vie, mais si je suis amoureuse d'une meuf qui me dit de la merde sur ses ex, déjà là, moi, c'est repoussoir.
La féminité hétérosexuelle commence à peine à arriver à cet endroit, c'est-à-dire que maintenant, ça y est, j'entends beaucoup de femmes, pas seulement des filles, des femmes, dire à partir du moment où je rencontre un mec et qu'il me dit mon ex est folle,
ouais,
fini. Red flag, instantané, ouais. Bisous.
Merci.
Des bisous à ta maman. Vraiment, je vais partir dans l'autre sens. Ouais. Ça, alors, quand j'étais... Ça, depuis 35 années de carrière amoureuse, ça vient à peine d'arriver. Avant, c'était exactement l'inverse. Mmh. On disait, ah, génial, son ex, elle est folle. En gros, son ex, elle est folle. Bah, et comme moi, je suis trop bien normale, il va trop m'aimer.
Oui, alors, d'accord, mais tu peux quand même tomber dans une relation toxique et te dire, j'étais dans une relation toxique, je m'en suis sorti, sans dire que la personne était folle. Mais ça peut
non,
être
mais la phrase, mon est... ouais. Enfin, y a... en gros, si tu parles à des hommes hétérosexuels, ils arrivent tous avec c'est une ex qui est folle. Donc, où on devrait toutes être dans des asiles psychiatriques
non, mais
et
d'accord.
vous en train de vous reproduire avec des poneys, ou potentiellement vous dites de la merde parce que juste vous n'avez pas géré une relation qui vous a rendu triste, perdu ou malheureux. Et vous
c'est
décidez
une façon de
que
se protéger,
fille...
de se dire voilà. que l'autre est cinglé et c'est pas toi qui
et surtout, tu
ne
te remets pas du tout en question. C'est le narratif.
Tu peux dire que tu t'es mis dans une relation toxique et te remettre en question en te disant mais pourquoi j'étais dans cette relation toxique.
Mais dans relation toxique, il n'y a pas forcément une personne toxique. L'idée c'est... même de la relation toxique, c'est que c'est deux personnes qui, en se mettant ensemble, avec leur tard à l'un et à l'autre, font de la merde.
Ouais. Mais d'ailleurs,
nucléaire.
Non, mais d'ailleurs, si tu es dans une relation toxique, et c'est sûr que tu reproduis les mêmes relations toxiques, donc tu as tendance à dire si tu n'as pas fait un travail sur toi.
Oui. Mais François, tout ça, c'est des minorités. Moi, je te parle de 35 ans de vie hétérosexuelle amoureuse. J'ai passé mon temps à entendre des mecs de tous âges m'expliquer que leur ex est folle, je te répète, ou alors faut toutes nous enfermer.
Non, pas toutes.
J'ai chaud.
Que les folles.
Non, on va peut-être repartir sur la création et sur la.
Mais
sur
parce,
la
que c'est, parce que regarde,
c'est ma faute. Ouais.
Elle propose. Son idée de podcast, elle est tellement démonte que ça me fait.
D'accord.
oui, donc on est en pleine écriture. Donc, et ces discussions-là qu'on a. Ouais. Moi j'adore ça parce que c'est vrai qu'il s'agit pas de temps de création mais en fait à chaque fois qu'on lance le sujet il s'agit
de la création
et on te raconte et on te propose et tout d'un coup enfin moi les discussions que ça génère depuis quelques mois qu'on lance le sujet ci ou là quand on parle avec nos potes c'est trop génial quoi. C'est trop génial parce qu'en fait, raconte-moi ta relation à tes potes, tu me diras qui tu es. Enfin, c'est une autre. Enfin, moi, je découvre des gens que je croyais connaître par cœur et quand celle-ci ou cela me parle de leur rapport à leur ex ou à leur histoire amoureuse et tout ça, et que je suis là, ah ouais, putain. Enfin, c'est une nouvelle, tu vois, c'est une nouvelle
donc,
facette et tout.
Toi, t'as déjà fait 3, 4, 5 podcasts.
Non, c'est le troisième.
Cinq relations amoureuses.
On a fait Voyage au Gounistan où on racontait nos vies lesbiennes, enfin les vies lesbiennes en Suisse romande.
Ouais.
Ensuite, on a fait Destination Vieillistan, qui est l'histoire de vieillir queer, comment vieillir, comment se préparer au vieillissement, alors que peut-être les personnes queer, pas toujours, mais par certains endroits, n'ont pas les mêmes privilèges, et comment s'en sortir. Mmh. Et puis là, on avait besoin d'un truc un peu joyeux. Alors on pourrait se dire que les ex. Ben,
question genre, c'est pas un podcast.
Non, c'est
une émission.
C'est l'émission qui est diffusée sur la première. Ouais. Et donc là, on fait le Royaume des ex qui sort en juin.
Mais je me réjouis tellement.
Qui sort en juin ?
Ça sort en juin, ouais. Ce sera un épisode, deux épisodes par semaine, donc sur un mois, juin, juillet, paf, il y a deux épisodes qui sortent.
Mais il y a un truc quand même qui me... Alors, ça n'est pas la création, mais je la pose, tu couperas, Ramzi.
Je couperai.
C'est quand même de pas pouvoir ne pas voir ses ex est difficile. Non, mais je veux dire, c'est particulier.
C'est violent.
Non, mais c'est violent, c'est-à-dire que quand tu finis une relation, si ton entourage, t'es obligé de... Parce qu'autrement, tu vois plus d'amis. Mm-hmm. Tu vois, parce que moi, je suis hétérosexuel. Moi, c'est pas un problème. Je suis dans une grande ville. Si je veux couper les ponts pour me remettre d'une séparation, en tout cas, si je veux plus voir la personne, c'est possible. Ouais. Vous, c'est pas possible. Mm-mm. Donc, il faut que tu... Même si t'as envie, même si t'es pas dans une optique de plus jamais lui parler, mais tu vois, si t'as besoin à un moment de prendre
alors, tu peux créer... Enfin, il y a distance et distance. Tu peux tout à fait ne plus t'écrire, ne plus te voir, ne plus prendre de nouvelles, machin, et puis aller aux mêmes soirées, te faire une petite bise vaguement chaleureuse, et puis trouver une... Voilà. Juste ce truc-là de dire je ne veux plus voir cette personne, j'y renonce complètement, et cette personne ne sera plus jamais fera partie de ma vie, ça, non, ça, c'est pas possible.
Ouais. Ou alors, tu changes de
pays, mais prendre la distance à tout le monde, enfin, tout le monde a besoin de distance, et tout ça, dans tous les récits qu'on recueille, et tout, enfin, pour... transformation relationnelle, il faut une prise de distance, il faut digérer le machin, il faut reconnaître aussi ses torts. Enfin, ouais, ça demande du job, et puis c'est quand même quelques années. J'ai jamais entendu quelqu'un me dire ouais, on était plus ensemble, on s'est roulé par terre, on était d'une tristesse absolue pendant deux semaines, puis après on est devenus les meilleurs potes. Enfin, ça n'existe pas ce truc-là.
Non.
Enfin, pour l'instant, enfin, on n'a pas encore rencontré cette personne-là. Quoi.
Ouais.
Et alors, comment tu les fabriques, ces podcasts ?
Alors, c'est Aurélie et moi, enfin, c'est vraiment. C'est un travail d'écriture, ça je découvre ça complètement par rapport à la radio. Ou à la radio, enfin tu prépares une interview. Enfin, moi ce que je fais à la radio, c'est soit des émissions, soit des entretiens. Voilà, tu poses des questions, là il s'agit d'autre chose, que j'adore, hein. J'adore faire ça, mais là ça n'a rien à voir. Là il faut vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on raconte, quelle histoire on raconte, comment, parce que c'est sériel, c'est 10 épisodes, donc comment est-ce que la personne reste du début à la fin, comment est-ce qu'on peut mettre en jeu des arcs narratifs, enfin, vous connaissez comment on écrit des histoires, enfin, il s'agit vraiment de ça, quel personnage on retrouve, où on le retrouve, donc on passe, ça c'est mon moment préféré, en plus j'adore bosser avec Aurélie, qui est géniale, et parce que je l'aime, c'est pas que ça, c'est vraiment juste, on adore bosser ensemble. Ouais. Et on a découvert ça. Et donc, on se casse en général. On profite de nos vacances de Noël. Oui, on profite de nos vacances. Ça ouais, je sais que ça sonne bizarre, mais on profite de nos vacances. Là, en l'occurrence, on avait fait un voyage en train en Allemagne et tout. Puis on prenait toujours le matin. On va bosser dans des bistrots. On adore bosser dans les bistrots. Et puis des post-it, des machins. Voilà, qu'est-ce qu'on raconte, comment, quel personnage, ce sera quoi l'arc narratif, c'est quoi ta quête, c'est quoi ma quête, voilà. Qui est-ce qu'on aimerait entendre. Et puis tu bricoles, tac, 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 tac. Et puis en fait, nous, on commence rien tant qu'on n'a pas la structure, quoi, qui est vraiment un tableau clair. Ouais. On sait, chaque épisode, on sait. D'accord. On laisse des places pour les surprises parce qu'il y en a, oui, il se passe des trucs, machin. Mais non, sinon, c'est exactement ouais. On va. Et ça, c'est un boulot monstre. Après, engranger les interviews et tout
exemple,
ça.
Par exemple, sur Vieillistan ou Bouinistan, c'est 10 épisodes à chaque fois. Mm-hmm. Le travail d'écriture, de découpage,
de structure, c'est 2-3 semaines. 2-3
semaines.
Ouais.
Ah ouais. 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 Et après, donc l'étape d'après, c'est le,
après,
donc
c'est,
la fabrication.
C'est générer les, faire les interviews. Tu ramènes ta matière. Ouais. C'est des heures et des heures et des heures. Après, moi, ce que j'adore faire, c'est le montage.
Ouais.
Ça, c'est vraiment pour moi. C'est mon kiff. Aurélie, elle m'emboise, elle m'emmerde et tout.
Il n'y a que toi qui le fais.
Ouais. Ouais. Okay. En fait, je crois qu'elle sait pas le pouvoir que ça, ce truc, le montage. Donc en fait, mais tu racontes l'histoire que tu veux. En fait.
Oui.
Enfin, t'as évidemment quelqu'un qui s'est livré, tu prends extrêmement soin parce que c'est toujours des
oui,
paroles
tu
importantes.
Pas les propos. Ouais.
Voilà, donc tu respectes. Et puis, de toute façon, on fait réécouter et tout. Hein.
Ouais.
Contrairement aux autres trucs qu'on fait en radio, c'est ton problème, tu viens, tu t'assumes. Là, il s'agit vraiment de récits, c'est hyper précieux, c'est hyper intime, c'est des gens qui se livrent. On a beaucoup de nos amis, enfin, donc on fait vraiment hyper gaffe, donc on s'assure que ce soit bien fait. Mais par contre, tu sais, t'as genre 1h30 d'interview, puis t'en gardes 7 minutes à la fin.
Ouais.
Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu machins? Enfin, ça c'est le moment, mais vraiment tu sais, c'est le matin où je me dis aujourd'hui je monte
et
je suis derrière mon ordi sur mon canapé en bed office quoi. Puis je suis comme ça en train de faire mes montages
et comment
tout,
ça
j'adore.
Se passe concrètement le montage, est-ce que tu scriptes tout, est-ce que tu
non j'écoute
t'écoutes
ouais,
et
j'écoute
tu mets
et machin,
et tu prends
je
fais
des notes, je fais des
il y a des marqueurs
des silences, voilà je fais des marqueurs avec des
mais sur le logiciel de montage il y a un marqueur un truc comme
ouais exactement t'as des marqueurs mais je marque pas là il dit que malheureux quoi. Non, mentalement je me souviens, enfin ça j'ai une bonne mémoire de ce que
d'accord.
les gens me disent, donc je sais que c'était là gna gna gna. Puis ce moment où tu tricotes, où tu fous là les sons qui ce moment là
t'ajustes
ouais. Et puis
pour moi c'est hyper
créatif. Tu as écrit la trame, je pense que aussi tu sais en fait tu sais les trucs qui vont dans quelle case presque.
Moi je sais ce qu'on veut raconter, c'est à dire que mais d'ailleurs avec Aurélie on en discute, hein. C'est à dire que quand la personne se barre et tout, on se dit voilà ça on gardera, ça c'est important et machin gna gna. Et puis voilà,
comme nous, je coupe les trucs de François, on le dit tout de suite après.
Non, c'est le moment du montage, je l'adore. Et puis après le montage, il y a l'écriture. Ça, c'est un autre moment aussi que j'adore.
Alors on
passe deux jours et demi sur vraiment l'écriture de l'épisode.
L'écriture, c'est
pour
ce qui
un épisode.
Enrobe
les sons.
Toutes les interviews, tous les.
Ouais, exactement. Avec comment est-ce qu'on amène le sujet, comment
okay.
Mais c'est vraiment un travail d'écriture de quasi de fiction, enfin il s'agit pas
oui parce que vous dialoguez toutes les deux en
on
plus,
dialogue entre nous voilà. On joue, on crée des séquences un peu pop avec des petites scénettes ridicules enfin où on s'imagine qu'on est ailleurs machin, enfin il y a quelque chose d'assez assez plutôt rigolo, enfin on essaie d'ailleurs d'injecter un peu d'humour un peu de malice et d'esprit
c'est
puis là va y avoir les trucs de télé,
c'est Candy,
vous allez avoir la parodie de télé-réalité là
alors là on va jouer. Et en même temps, on va être aussi très premier degré, j'y tenais, parce que j'adore trop la télé-réalité pour qu'on s'en moque. Donc il y a un truc un peu de deuxième degré, un peu genre, on a demandé à la musicienne avec qui on bosse de nous faire un jingle hyper kitsch, tu vois, un peu genre, qui veut gagner 10 millions, quoi. Tu vois, un truc bien kitsch.
Les trucs dramatiques, puis, vous allez vous engueuler.
Puis en fait, ce qui est
les clashs.
Puis en fait, c'est vraiment, bah, puis ça finit comme ça, tu vois, c'est fin, comme ça, paf, un réverb bien kitschouille. Et puis d'un coup, je dis, mais. Tu crois pas que c'est un peu trop là, Aurélie? Tu voulais faire de la télé-réalité, mais on t'assume, tu vois.
Ouais.
Donc on en joue un peu et machin. Ouais. Mais par contre, après, ce qu'on met en place, c'est-à-dire des ex dans une pièce avec des micros partout et machin, ce qu'on a mis comme dispositif, ça, alors on l'a pris hyper au sérieux, quoi. Enfin, moi, il fallait pas déconner que ça. Il y a pas de deuxième degré du tout, en fait.
Ouais,
tu vois. Donc voilà. Et les gens qui participent, franchement. Pour l'instant, ça, c'est vraiment trop bien, quoi. Enfin, c'est super touchant, c'est beau, en fait. C'est hyper émouvant, c'est intelligent, c'est sensible, c'est inspirant. Enfin, donc
ça veut
là,
dire que vous avez reçu des ex qui s'aiment bien.
Alors, on a reçu plein de... On a plusieurs configurations. On a fait un appel sur les réseaux. Je ne vais pas trop en dire non plus parce que voilà, mais il y a des...
Bon,
voilà,
il sort dans longtemps, hein, le podcast, là.
Ouais.
Il sort en mai, hein, c'est le nôtre.
Non, mais toi, tu veux les exclus. Toi, tu es dans la fabrique, tu veux les exclus. On a eu Chanfray, des exclus,
mais on a
là,
fait,
pareil, Christine, exclus.
On a fait un appel sur les réseaux. On a dit, vous êtes en train de vous séparer et vous voulez le faire bien? Écrivez-nous. Vous n'êtes pas parlé depuis des années? Vous aimeriez débriefer.
C'est Bataille Fontaine. Écrivez-nous. En fait.
Exactement, le rideau, comment ça s'appelait?
Ouais.
On va ouvrir le rideau, perdu de vue. Enfin, c'est tout ce que j'ai bouffé, moi, depuis. Moi, vous ne rendez pas compte. Hein. Enfin, je crois que Juju, elle sait, mais moi, j'ai bouffé ça depuis mes 11
parce
ans.
Parce que j'ai bouffé la même chose que toi.
Bah,
non, moi, j'ai commencé plus tard parce que je n'avais pas accès à la télé. Mais par contre, quand j'ai eu accès à la télé, attention, j'ai mis les bouchées.
Ah ouais, c'est ça. Et ça, moi, ça m'a hyper inspiré. Enfin, vraiment, en premier degré.
Oui, mais parce que, en fait, dans ces émissions qui sont, c'est vrai, horriblement merdique, sale et tout ce qu'on veut. Nanana.
Voyeuriste et tout, ouais.
Au milieu, il reste qu'il y a des vrais gens.
Oui, oui,
il y a
de
la
sûr.
Tendresse.
Et
ça
qui
reste.
Disent des choses infiniment plus vraies que dans n'importe quel film. Fin de l'histoire de n'importe quel film.
Oui, et puis il y avait
fiction.
Des gens qui retrouveraient vraiment des gens qui avaient disparu. Ils arrivaient à retrouver des
oui,
gens.
Mais moi, j'en suis même pas là. J'en suis à des moments de vie que ouais. Tu peux t'acharner à trouver dans des films reconnus, célébrés et tout ça. Et où, en gros, pour parler comme Chirac, ça touche une couille sans bouger l'autre. Et là, tu regardes ces trucs qui sont ineptes et au milieu de tout ça, il se passe une chose que toi, ça rebondit très fort dans toi parce que ça s'appelle
donc,
la réalité.
Attends, juste avant, on était sur la phase d'écriture. Mm-hmm. Et donc
là, on passe 2-3 jours vraiment à écrire, à machin, à imaginer. Puis après, on passe un jour en studio. Et puis après, le réel, Marc, magicien,
en
nous fait plein de propositions.
En studio pour enregistrer tous les...
Ouais, on enregistre
tout,
et machin. On relie avec le prod qui vient.
Du coup, t'as des sons dans tous les sens.
Oui, oui. Mais moi genre, on a l'habitude de... Moi, je débarque à 45 sons.
Hyper organisé.
Oui, mais moi, je suis assez organisé. Ouais.
Oui, puis après, elle a un projet multipiste.
Elle n'est pas vraiment mon sujet.
Non, mais elle fait un vrai travail de réalisation. C'est-à-dire qu'elle travaille sur multipiste. Il y a une piste...
Multipiste, ça veut dire quoi?
Un multipiste, c'est un logiciel où il y a toutes les pistes sonores, donc les musiques, les interviews, le reportage. Tu dois avoir même... Si tu, parce que ma question que je voulais poser, c'était sur le dispositif de micro. Il doit y avoir plusieurs micros pour une même séquence. Oui. Et après, tu as la prise de son vocale de studio.
Mais là, il y a Marc.
Et après,
hein. Là, c'est là que Marc intervient. Tu vois, par exemple, ce qu'on a mis en place dans le podcast Réalité... Donc lui, il a foutu des micros, soit micro-cravate, soit L7, soit aussi il a foutu un simple zoom au-dessus. Enfin,
ah oui, c'est ça que je voulais te demander,
pour jouer avec la texture
de micro.
C'est pour jouer avec les différentes textures, les différents moments, quand les moments, potentiellement, si par exemple deux personnes qui sont dans la pièce se lèvent et s'embrassent, que ça fasse pas... Tu vois, qu'on sente qu'il se passe quelque chose, qu'on s'embrasse, se hug. Et quoique, peut-être.
Ah ouais, vous jouez carrément tout un tas de plans sonores différents.
Ouais. Et puis Marc, alors lui qui travaille pas que sur les podcasts, il travaille beaucoup pour le broadcast, il travaille les machins et tout ça. Mais lui, tu vois qu'il s'éclate. Hein. Ça, c'est un taiseux. Hein. C'est pas le genre à dire oh, putain, je m'éclate. Mais tu vois, quoi. Il est en train de s'amuser, d'imaginer, machin. Puis on peut discuter un quart d'heure sur quel micro prendre, quelle personnalité prendra quel micro, parce que ça pourrait être intéressant que cette personne qui bouge beaucoup, qui regarde en l'air et tout ça, ben, soit accompagnée. Dans le son. Enfin, c'est génial. Quoi. Ouais. Enfin, à ces moments-là, je les adore. Donc, oui, il y a l'écriture, on enregistre et machin. Puis après, Marc, il bosse, on réécoute.
Assembler le
chacun,
tout.
Chacune, il met son grain de sel. Ah ouais, là, j'y crois pas, là, c'est cool, là, c'est machin, j'adore. On fait aussi vachement les j'adore. Enfin, c'est vachement important aussi pour nous de bosser là-dedans, tu vois, de dire pas que ce qui va pas à dire ça, putain, mais t'es un génie. Enfin, ce mec, c'est un génie. Autant
après,
que toi,
François.
Non, non, mais t'inquiète, c'est bon.
Et donc et après en fait voilà, l'épisode il est fini et tout ça, c'est un boulot de taré en fait.
C'est un
boulot de taré, mais en même temps la RTS, et ça c'est cool, vraiment il croit en fait à ces podcasts là, il commence à injecter quand même des moyens de plus en plus pour des podcasts natifs, ça se développe vraiment depuis quelques années.
Il t'accompagne énormément. Et ça c'est toute la phase une fois que t'as eu l'idée, parce qu'il y a toute la phase en amont où tu réfléchis, tu cherches une idée de podcast. Et ça, comment ça vient? Est-ce que c'est la RTS qui te
Mojito.
Propose de...
Mojito, essentiellement.
Rosé.
Oui, j'allais dire Mojito.
Oui, mais je dis Mojito parce que c'est l'été que ça se passe en général. Ouais. Et là, je suis vraiment seins nus sur une plage. Pas du tout. Je suis sur une terrasse.
Et toi, le droit.
Non, je suis avec Aurélie. Enfin, la première fois, le premier podcast, la première idée, c'était banalement pendant le Covid. On s'est dit, on était les deux enfermés l'une avec l'autre. On s'est dit, il faut qu'on fasse un machin et tout. C'est comme ça que c'était né. Et puis après, on s'était dit, enfin, le Gounistan a bien marché. Il y a un bruit. C'est quoi?
C'est dehors.
C'est un chantier dehors.
Et donc, le Gounistan a bien fonctionné. On a adoré bosser ensemble, Aurélie et moi, bien que, je vous rassure, on fait d'autres trucs par ailleurs, chacune dans notre coin et tout ça. Mais ce truc-là, on n'avait pas envie de le perdre, quoi. Enfin, c'est comme, tu sais, comme si tu adores jouer au ping-pong ensemble, puis tu te dis, on ne va pas s'arrêter l'été prochain à jouer au ping-pong. Enfin, il fallait qu'on retrouve un machin. Et puis en plus, la direction était à fond, si vous voulez faire un autre, en tout cas, on est ouvert. Et puis nous, il y avait ce sujet qui nous touche énormément, c'est celui du vieillir queer. On savait que c'était pas un sujet vendable comme première saison. Enfin, c'est vraiment, c'est très repoussoir, queer, vieillir. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui l'ont pas écouté, contrairement au Gounistan, enfin, qui disent oui, j'irai, mais c'est un peu compliqué. Là, je t'avoue que ça me fait pas trop envie.
Ah ouais.
Et puis là, on s'était dit, alors là maintenant, je pense qu'on peut profiter de ce moment où on nous file un peu les clés pour faire ce qui est invendable. Et donc proposer cette saison, tout en assurant, et j'espère qu'on l'a fait, que ce serait quelque chose quand même qui donne, enfin qui soit pas plombant, au contraire, qui
donne envie d'avoir des ex.
De toute façon, les séparations, même dans la narration, dans la fiction, c'est beaucoup vu, écouté, filmé au cinéma. Et que votre deuxième sur vieillir, c'est beaucoup plus tabou, donc c'est
ouais, c'est
plus
ça.
Compliqué.
Ouais, c'était plus compliqué.
Les ex, je pense, ça a marché.
Les ex, a priori, ça devrait, c'est très concernant. Enfin là,
tout le monde s'est fait larguer.
Ouais. Puis on s'était dit, on a imaginé ça comme un triptyque. On s'est dit, enfin là, on fait un triptyque queer et tout ça, et puis il y aura aimer, vieillir, rompre, quoi. Enfin voilà, ça, la vie, quoi.
Moi, je voulais revenir sur la RTS, du coup. Parce que...
Bah vas-y, François.
Oui, j'y vais.
Eh ben non, François, parce qu'on s'arrête là. Hein ? Et on reprendra sur le bonus, sans doute.
Mais t'es vraiment une raclure. Eh ben, je me casse. Je me lève et je me casse.
Merci beaucoup, Christine.
C'est trop bien.
Casse-toi, mais en délicatesse.
Je fais du bruit, j'en ai rien à foutre. Me casse.
Alors, elle était plus sexy, Adèle.
Au revoir.
Oui, bah ça va.
Alors, on va juste rappeler...
On va sortir, il y a ta caméra qui fait chier. Je suis bloqué.
On va rappeler tes actus, donc. Les trois podcasts. Enfin, les deux podcasts qui sont sortis et le prochain.
Alors, on rappelle
le
nom.
Le mois prochain.
Le Gounistan.
Voyage
au Gounistan, destination Vieillistan.
Et bientôt, au mois de juin,
le Royaume des Ex. On te retrouve également sur la RTS.
Le vendredi soir, dans Question Genre.
Très bonne émission.
Ouais, et qui est disponible en podcast. Moi,
oui, bien sûr. Oui,
il y avait Question Q avant. Tu dois être réécoutable, je pense.
Non, mais on continue. Question Q une fois par mois.
Question Q aussi. Beaucoup
et
trop d'activités.
Et une fois par mois dans le grand dimanche soir.
Et oui, une fois par mois, le grand dimanche soir.
Avec 30 sons. Avec 30 sons pour 3 minutes 30.
On n'a pas pu parler de cette chronique, mais peut-être qu'on en parlera dans le bonus. Mais en tout cas,
je me casse de toute façon. Ce ne sera pas avec moi.
Ce ne sera pas avec François.
Salut.
Donc merci beaucoup.
Merci
Juliette. Merci François. C'est le dernier épisode de la saison. Peut-être le dernier épisode de la fabrique.
Ah bah oui, c'est vrai.
Et
merci Juliette. Mais vous ferez une troisième saison?
Ça, on ne sait pas.
C'est en discussion avec la prod.
On ne sait pas.
Mais bien sûr,
il faut voir avec la chaîne.
On fait ça chaque année. On ne sait pas si on peut.
Il faut faire ça avec.
On se fait désirer.
Ouais. On a rendez-vous avec la chaîne.
C'est moi la chaîne. Et donc merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés pendant ces 20 épisodes.
Ouais.
Et
20.
On a fait 20.
Épisode 20.
Voilà, j'ai dit. On a fait 20. Et on se retrouve peut-être un jour.
Inch'Allah.
Peut-être.
Au revoir Christine et merci.
Merci à
vous.
Au revoir
Christine.
Au revoir Ramzi.
Au revoir Ramzi.
Au revoir François.
Au revoir François. Au revoir Juliette.
Au revoir.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style?
Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.